Bonjour. Je crois que c'est toujours difficile de poursuivre le travail après une pause de café, puisqu'il y a des conversations qui ont été entamées. Mais nous avons préparé ici un panel fort intéressant, donc on souhaiterait bien continuer. Au-delà de l'Alliance Partenariat pour la Sécurité de l'Europe, et je dois vous avouer quelque chose, il n'a pas été facile pour moi de comprendre ce titre. Donc, en tant qu'animatrice de cette discussion, j'ose de dire élargir l'Alliance et renforcer la sécurité en Europe. Nous élargissons notre Alliance et les panélistes sont en quelque sorte les briques. Le ministre président de la première ministre du Danemark, pays fondateur de l'OTAN, le président de la République de Finlande, Niinistö, et nous espérons que la Finlande va adhérer bientôt à l'OTAN, et la présidente de la République de Moldavie, Madame Sandu. La Moldavie est un partenaire de longues années de l'OTAN et je ne peux pas m'imaginer une meilleure personnalité pour initier cette discussion qu'un des architectes en quelque sorte de l'Alliance moderne, à savoir le secrétaire général qui a dirigé l'organisation pendant une très longue période. À l'époque, lorsqu'il a pris cette fonction, on a déjà commencé un changement épocal. Puisque la transformation, la grande transformation a été initiée à ce moment-là, M. Stoltenberg nous a permis de surmonter plusieurs écueils et il va donc nous initier pour cette discussion. Donc, souhaitez la bienvenue à M. Stoltenberg, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quel plaisir d'être à nouveau à Munich. D'autant plus que c'est avec Mette Maya Saoli, donc je me réjouis vraiment de pouvoir échanger avec vous d'ici quelques minutes. Il est vrai, la Russie continue sa guerre contre l'Ukraine. Nous sommes choqués de la brutalité de la guerre, mais nous ne devrions pas être surpris parce que ça fait partie du modèle de l'agression russe que nous connaissons depuis plusieurs années déjà. Et les alliés de l'OTAN disposer de renseignements militaires préparant cette invasion quelques mois avant le déclenchement de la guerre. Pendant des mois, nous avons essayé sur les voies diplomatiques d'influer sur la Russie. Et encore quelques jours avant le début de la guerre, ici même sur cette scène à Munich, j'ai lancé un appel à Poutine de renoncer à une agression. Mais malgré tous ces appels, il a décidé donc d'agresser l'Ukraine. Nous pouvons tirer des enseignements très importants de cette guerre dès aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons maintenir notre soutien en faveur de l'Ukraine, voire le renforcer. Poutine ne prépare pas la paix, mais il prépare la poursuite de la guerre, de nouvelles offensives. Il n'y a pas d'indice qui nous dirait qu'il changerait d'avis. Il mobilise des centaines de milliers de troupes et transforme l'économie russe vers une industrie de guerre et s'approvisionne en équipement militaire. Donc nous, de notre côté, nous devons équiper l'Ukraine pour lui permettre de vaincre et de persister en Europe. Quelques-uns ont le souci que notre soutien à l'Ukraine pourrait contribuer à une escalade, mais je voudrais être claire. Dans mon positionnement. Il n'y a pas de position sans risque, mais le plus grand risque serait que Poutine vaincra. Si Poutine sortirait de cette guerre en tant que vainqueur, le message pour lui et pour d'autres dirigeants autocrates serait qu'il pourrait s'en sortir et gagner de telles initiatives, et ce serait dangereux pour nous tous. Le soutien de l'Ukraine n'est pas seulement l'approche morale que nous devons opter, mais aussi dans notre propre intérêt. Deuxièmement, nous devons renforcer davantage notre propre capacité de défense, parce que les guerres sont imprévisibles. On ne sait pas comment et à quel moment cette guerre se terminera. Mais même si la guerre serait terminée demain, la situation pour nous aurait changé, parce que le retour n'est plus possible. Le Kremlin souhaite d'avoir une autre Europe, une Europe où la Russie contrôle ses paysans. Et Beijing suit de très près ce qui s'y passe et quel sera le prix à payer par la Russie et quel sera aussi éventuellement le profit de cette agression pour la Russie. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui pourrait se passer demain en Asie. Donc cette guerre en Ukraine nous montre que la sécurité n'est pas régionale mais mondiale. Dans cet univers menacée, nous ne pouvons pas considérer la défense comme une option, mais c'est une nécessité. Des dépenses plus élevées pour la défense signifie qu'on a moins de budget pour les autres domaines, mais rien n'est plus important que notre sécurité pour maintenir la paix. Troisièmement, il faudra renforcer la résilience de nos sociétés. Il nous faut les forces armées afin d'assurer notre sécurité. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut également protéger notre espace cyber, nos chaînes d'approvisionnement et notre infrastructure. La guerre en Ukraine nous a montré clairement la dangerosité de la dépendance de régimes autoritaires. Récemment encore, il y a eu des argumentations disant l'importation de gaz russe serait une question purement économique. Mais cela n'est pas le cas. C'est une question d'ordre politique, une question qui touche à notre sécurité, parce que la dépendance européenne du gaz russe nous a rendus vulnérables. Il faut éviter de commettre les mêmes erreurs avec la Chine et avec d'autres régimes autoritaires. Nous ne devons pas être trop dépendants de produits et de matières premières que nous importons. Et nous devrions éviter d'exporter des technologies clés qu'on pourrait utiliser à notre encontre. Chez nous aussi, nous devons protéger nos infrastructures critiques. Et bien sûr, nous devons poursuivre la coopération économique avec la Chine, mais les intérêts économiques ne peuvent pas prévaloir sur nos intérêts de sécurité. Donc, il est tout à fait évident que nous devons nous protéger nous-mêmes, tout en nous rappelant que le commerce entre alliés, entre partenaires, nous rend plus forts et plus résilients. Il ne faut plus avoir des barrières entre les sociétés ouvertes et libres. Et l'enseignement le plus important à tirer de la guerre en Ukraine est l'enseignement suivant. L'Amérique du Nord et l'Europe doivent faire preuve d'unité. Dans un monde dangereux, nous avons besoin de notre alliance plus que jamais. Sans l'OTAN, il ne peut pas y avoir de la sécurité en Europe. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le moment de mettre en question les alliances, mais aujourd'hui, nous devons plutôt renforcer notre alliance, voire l'élargir, afin de promouvoir la paix, afin d'assurer notre sécurité commune et de promouvoir un ordre mondial qui se fonde sur des valeurs démocratiques de liberté. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Stoltenberg. Je voudrais vous présenter les panélistes et demander tout d'abord aux panélistes de bien vouloir nous joindre. Et en attendant leur arrivée, je pose déjà une question. Non, tout d'abord, bien sûr, on va saluer les panélistes. Bon. Monsieur le Secrétaire général, tout le monde est déjà assis. Donc, je vais vous poser ma première question. Et je voudrais rebondir à quelque chose, l'inimaginable. Qu'est-ce qui se passe si jamais Poutine va sortir en tant que vainqueur? Qu'est-ce qu'on devrait faire? L'OTAN devrait protéger davantage le flanc est, on devrait dépenser davantage, le 2% du PIB serait donc le minimum extrême. Comment l'Alliance se prépare à l'impensable et quels sont les plans pour les 20 ans, 30 ans à venir pour l'Alliance? Donc tout d'abord, Poutine ne doit pas vaincre cette guerre. Voilà pourquoi l'Alliance et ses partenaires ont lancé un soutien, parce que sinon ce serait dangereux pour nous tous. Avec le message suivant, quand on utilise la violence, on reçoit ce qu'on a lancé. Ce n'est pas seulement un défi européen, mais un défi mondial. Récemment, j'ai été au Japon et en Corée du Sud, deux partenaires proches de l'Alliance, et ils voient qu'il y a des similitudes avec ce qui se passe en Europe et ce qui pourrait se passer en Asie. Donc, Beijing suit de très près comment va évoluer la guerre en Ukraine. Et si jamais Poutine vaincrait la guerre, ça aurait aussi un impact sur le comportement et les réflexions de Beijing dans sa région. Donc, il s'agit de la sécurité mondiale et non pas seulement de la sécurité régionale. L'OTAN s'est déjà adapté à la situation. La guerre n'a pas commencé seulement en février de l'année dernière, mais depuis 2014, en fait, puisque depuis ce moment-là, nous avons déjà commencé à renforcer notre alliance, une présence sur le flanc est. Nous avons mis sur pied de nouvelles unités. Nous avons augmenté les dépenses en matière de défense. Et nous sommes sûrs de pouvoir renforcer encore une fois ce message. Nous voulons un partenariat fort avec nos partenaires dans l'espace Indo-Pacifique et plus de dissuasion. Une autre question à vous, Monsieur le Secrétaire général. Après, je voudrais y impliquer aussi les autres panélistes. Donc, d'ici 5 mois, les alliés vont se rencontrer à Vilnius pour un sommet. Et après ce sommet, quelle sera la réussite pour l'Alliance? Eh bien, il s'agira de montrer à Vilnius qu'il nous faut un soutien continu de l'Ukraine. Et je suis convaincue qu'il y aura ce soutien. Donc, il faut encore renforcer notre disponibilité, donc de renforcer la dissuasion et de coopérer avec nos partenaires dans l'Indo-Pacifique. Et un autre point important pour la réussite, nous sommes une alliance très importante et sans cesse j'œuvre que jusqu'à Vilnius, jusqu'au sommet, le processus d'adhésion pour la Finlande et la Suède sera achevé et ces deux pays seront de nouveaux membres de l'OTAN. Ah, c'est un bon mot pour commencer la discussion. Et contrairement à la chancelière Merkel, vous avez échangé souvent avec Poutine ou en plus de Madame Merkel et vous avez dit que la Finlande voudra adhérer à l'OTAN. Vous connaissez donc Monsieur Poutine très bien. Vous avez donc pu analyser sa force et l'évolution du régime qui est aussi sous pression. Et donc, quelles sont vos analyses de son comportement, de ses capacités, de ses réflexions? Oui, j'ai entendu dire que le régime russe restera le même à l'avenir et se renforcera peut-être. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements, sauf que tout le pouvoir se concentre davantage sur la personnalité de Poutine et moins sur son entourage. Il y a plus d'entrepreneurs, par exemple, qui se sont éloignés de Poutine. Mais il faut bien être conscient du fait que les forces armées sont le facteur le plus important actuellement dans la société, dans l'économie nationale, dans l'industrie en Russie. Peu importe le domaine, les forces armées jouent le rôle le plus important. À mon avis, cette guerre de l'Ukraine Ce qui est important, c'est la possibilité de gagner. Et c'est le critère le plus important pour les réflexions actuelles. Et je pense que ce sera déterminant pour l'évolution. Donc, plus d'intensité. Donc, cela m'amène à la question de l'urgence. Donc, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Donc, vous voudrez adhérer officiellement à l'Alliance. Donc, Monsieur le Secrétaire Général, je voudrais vous rallier à la discussion parce que je voudrais bien être sûr du point de la situation. Vous avez été à Ankara. Vous avez rencontré des hauts personnages turcs aussi suite au tremblement de terre qui est vraiment atroce. Mais maintenant, nous nous trouvons face à un autre défi puisque les différents échéanciers jusqu'au sommet. Donc, vous avez aidé. La Finlande et la Suède sont prêtes à adhérer à l'OTAN, mais cela signifie en même temps aussi que, comme nos collègues turcs l'ont dit, que vous voulez accepter l'adhésion. Le Parlement finlandais s'attend aussi à cette adhésion. Donc, je voudrais avoir la clarté. Donc, la Finlande et la Suède voudraient adhérer en même temps. Mais si cela n'est pas possible, si la Turquie et la Hongrie d'ailleurs aussi refusent leur accord et ratifier seulement l'adhésion pour la Finlande, est-ce que cela sera le seul pays à adhérer et quelles seront les conséquences?
Bon, je vais être très clair dans ce contexte. Nous, ensemble avec la Suède, nous avons fait une demande d'adhésion, exprimé notre volonté de regagner les rangs de l'OTAN. Et c'est quelque chose qui est maintenant discuté par les États membres. 28 ont donné leur accord. La Turquie. C'est eux, en fait, qui doivent décider. Nous avons compris les messages. Et il faut être très clair quand on part à la Turquie, parce que leur position peut changer de temps en temps. Qui nous disent que la Finlande, oui, la Finlande remplit les critères que eux ils en font fixer, qui sont différents des critères d'adhésion de l'OTAN. Mais petit à petit, ils ont exprimé leur idée qu'ils accepteront l'adhésion de la Finlande et seulement de la Finlande. Et nous avons dit également que si la Finlande est d'accord avec cette séparation, cela se fera. Et notre réponse est très claire. Nous avons exprimé notre volonté ensemble avec la Suède et nous n'allons pas réagir. Nous n'allons pas accepter cette séparation, cette division. Mais la situation est telle que notre demande est donc sur la table à Ankara. Et si la Turquie acceptait de dire oui à la Finlande, mais pas dire à la Suède, ce serait difficile comme situation pour nous. En quelque sorte, nous avons les mains liées, nous avons demandé l'adhésion et on devrait dire maintenant non, nous ne sommes pas d'accord, non, nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas annulé notre demande. Voilà la situation. Mais je voudrais vous redire que nous avons posé cette demande ensemble avec la Suède. C'est notre volonté de rejoindre les rangs de l'OTAN ensemble. Et c'est les Turcs qui doivent décider. Premier ministre, vous avez vraiment tout fait pour sortir de ce dilemme, mais c'est vraiment une situation très difficile, monsieur le secrétaire général. Comment est-ce que nous pouvons envoyer un message d'unité et de solidarité avant le sommet de Vilnius? Bon, d'abord, l'OTAN a déjà pris les décisions nécessaires. Nous avons, au mois de juillet, pris une décision historique de demander à la Suède et à la Finlande de nous rejoindre. Et nous avons congédié un protocole, adopté un protocole. Donc l'OTAN a pris ces décisions. Ce qui manque encore, c'est un processus de ratification dans les pays alliés. 28 ont déjà ratifié et la Hongrie, la Turquie n'ont pas encore fait. Mon message a toujours été, aussi à Ankara, quand j'y étais au début de la semaine, la Finlande et la Suède sont prêts pour la ratification. Ils ont rempli leurs obligations. Ils ont signé un mémorandum avec la Turquie au mois de juillet et maintenant les alliés finissent leur processus de ratification. Et j'ai dit aussi que ce qui est important maintenant, c'est que les deux deviennent membres de l'OTAN aussi rapidement que possible. Non, pas l'un avant l'autre, mais les deux doivent rejoindre nos rangs les plus rapidement possible. Et je continue à travailler dur qu'ils deviennent membres au sommet de Vilnius. Une chose encore, j'aimerais ajouter, c'est une décision turque. Il y a deux protocoles et moi, vraiment, je demande à la Turquie de ratifier les deux. Mais s'il ratifie seulement un, à ce moment-là, la Finlande devient membre de l'Alliance. Mon dernier point, il faut aussi se souvenir que la Suède et la Finlande sont dans une situation bien meilleure qu'avant. C'est pas comme si rien ne s'était passé. Ils sont vraiment à la table de l'OTAN. Ils participent aux réunions de l'OTAN. Ils sont intégrés plus ou moins dans la planification de défense, dans la structure militaire. La présence de l'OTAN est accrue dans la région. Beaucoup d'alliés ont donner des garanties de sécurité pendant ce processus d'adhésion. Donc c'est complètement inimaginable qu'il y ait une menace militaire contre la Suède et la Finlande sans une réaction de l'OTAN. Donc oui, il faut finaliser, mais nous sommes déjà bien avancés avec la Suède et la Finlande. Merci beaucoup. C'est essentiel et on va voir ce qui se passe durant les semaines et mois qui viennent. Madame la Présidente Sandu, vous avez certainement eu une semaine particulièrement dure. Et j'espère que vous pourriez nous expliquer maintenant ce qui se passait, que nous avons vu dans les journaux, une opération russe en Moldavie, ce qui est tout à fait comparable à ce qui s'est passé en 2016 au Monténégro. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez de la situation, qui est toujours une situation de déstabilisation, et comment est-ce que nous pouvons apprendre à mieux protéger nos sociétés de cette influence maligne de la Russie? Votre pays est certainement sous une grande pression. Merci de vos idées là-dessus, et par la suite, nous allons parler de du partenariat avec votre pays dans les jours à venir. Merci. J'aimerais tout d'abord dire que la guerre de la Russie contre l'Ukraine a des répercussions énormes sur la sécurité de la Moldavie à tous les égards, y inclut le risque militaire pour mon pays. Dans les derniers mois, il y a eu 4 missiles qui ont traversé notre espace aérien de façon illicite. Nous avons constaté des menaces de Russie. Récemment encore, par le ministre des Affaires étrangères qui a dit que la Moldavie pourrait être la prochaine victime. Mais tant que l'Ukraine occupe, pour ainsi dire, la Russie, nous pensons qu'il n'y aura pas de menace imminente à mon pays. Et l'Ukraine, en quelque sorte, garantit notre sécurité. La Russie mène déjà une guerre hybride contre la Moldavie. Il y a beaucoup d'exemples. Ils ont essayé de profiter de la crise énergétique. Ils ont espéré que nous ne pourrions plus payer pour les prix élevés de gaz et d'électricité, mais le gouvernement a trouvé un moyen pour payer. Les prix ont augmenté de 60%. Ils avaient espéré que nous ne pourrions pas trouver des sources alternatives et que cela mènerait à un renversement du gouvernement élu. Le nouveau plan, maintenant, c'est d'essayer de faire entrer des personnes à l'intérieur du pays avec qui organisent des protestations violentes, notamment lors des élections parlementaires. Il y a beaucoup d'éléments de cette guerre hybride, mais ce qui est le plus endommageant pour notre pays, c'est la propagande, les attaques cyber, des fausses alertes au bombardement, et tout cela, bien sûr, a pour objectif de déstabiliser la société et de profiter de la situation difficile économique dans notre pays en raison de la guerre en Ukraine, et que les gens sortent dans la rue et essayent de renverser le gouvernement pour y installer un gouvernement pro-russe. Merci, Madame la Présidente. À mon avis, il y a eu un partenariat avec l'OTAN depuis longtemps. Il y a maintenant aussi un bureau de liaison à Chisinau, à la capitale. Pour renforcer le partenariat, quelles sont les possibilités, quelles sont les chances pour que l'OTAN aurait plus d'impact encore et pourrait renforcer et moderniser vos structures de défense? Oui, il y a ce partenariat de longue date avec l'OTAN et nous sommes très reconnaissants. En même temps, nous avons reçu une promesse de plus de soutien encore lors du sommet de Madrid. Il y aura des projets avec un effet immédiat et le plus grand de ces projets est en fait la surveillance de l'espace aérien et la défense de l'espace aérien. C'est important pour toute la région, en fait, et j'aimerais demander à nos partenaires de réfléchir encore sur ce soutien dont nous avons tellement besoin. Et puis, les menaces internes, hybrides. Nous devons développer une stratégie, avoir des capacités de renseignement pour faire face à ces cybermenaces. Puis, sécurité des frontières, contrôle des frontières, là, nous avons besoin de soutien également, et nous concentrer sur les capacités. À mon avis, nous devons coopérer et être plus efficaces pour nous confronter cette propagande russe. Nous ne pouvons pas le faire tout seul. Il faut une approche commune, je pense que nous l'avons, pour lutter contre cette propagande pro-guerre. Par exemple, dans les médias sociaux, pour justement lutter contre la désinformation et cette fausse propagande. Et je pense que cela pourrait être fait si nous le faisons ensemble. Mais c'est une grande mission. Cette propagande est en fait l'élément qui le plus porte atteinte à notre société actuellement. En quelque sorte, vous êtes un laboratoire de Moldavie. Madame la Première ministre Frederiksen, il y a eu des élections. Le Danemark a connu aussi une nouvelle ère, un changement dans les temps. Le Danemark a décidé de rejoindre également la politique commune de sécurité et de défense et de dépenser 1 milliard d'euros pour la défense. Qu'est-ce qui doit être encore fait? Nous sommes à seulement une année jusqu'à un bilan si les membres ont rempli l'objectif des 2%. Alors, votre rôle de leader dans cette période, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter encore les dépenses pour la défense au Danemark? Merci. Tout d'abord, j'aimerais dire que Maya, elle est vraiment une présidente européenne très, très courageuse. La Moldavie est un petit pays, un pays pauvre, fragile. Vous pourriez être la prochaine victime. Quand on pense à la Russie. Et vous, en tant que personnalité, vous incarnez la démocratie, la loi et la lutte contre la corruption. Nous devons réagir plus rapidement. J'en ai parlé avec Jens au Danemark, mais je voulais dire aussi ne N'oublions pas la Moldavie, la Géorgie et d'autres pays voisins. Donc si vous me demandez qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant, oui, nous devons dépenser plus pour notre défense. C'est un premier objectif et nous devons faire le plus possible pour soutenir l'Ukraine avec des armes, les moderniser. Nous devons le faire plus rapidement et nous devons aussi coopérer plus étroitement en Europe dans la production. Il est très important d'avoir plus, mais aussi d'être capable de nous défendre nous-mêmes. Mais nous avons besoin aussi de partenariats plus forts, plus solides. Et la Moldavie joue un rôle important aussi quand on pense aux pays du sud, de l'hémisphère sud. Nous nous concentrons sur l'Ukraine et c'est très très important, mais en même temps ce qui se passe en Afrique, dans la région du Sahel, n'est pas sans importance. Et nous, les pays européens, nous devons forger des alliances en Asie, par exemple. Et bien sûr, nous avons besoin aussi du lien transatlantique très fort. Mais il nous faut des alliances plus fortes avec l'Inde, avec nos partenaires en Asie, en Afrique, dans d'autres régions du monde. Si nous ne sommes pas capables de forger ces alliances, à mon avis, nous allons perdre cette lutte pour nos valeurs, cette guerre globale pour les valeurs. Donc il faut faire beaucoup de choses à la fois. Et toutes ces crises que nous, auxquelles nous faisons face sont liées les unes aux autres. Bien sûr, nous devons aider l'Ukraine. Nous devons gagner cette guerre ensemble avec l'Ukraine. Nous avons besoin d'une Union européenne plus forte, plus solide avec nos voisins et il faut être beaucoup plus actif au niveau global. Bon, ça c'est une longue liste de ce que vous voulez faire. Juste après l'invasion, vous avez lancé un appel pour des décisions historiques. Et c'était justement la Finlande et la Suède qui ont pris cette décision historique de joindre les rangs de l'OTAN et d'augmenter les dépenses pour la défense. Madame la Première ministre, le président Niinistö est avec nous aujourd'hui. Le Royaume du Danemark a un rôle important du point de vue géographique dans le nord de l'Atlantique et le Royaume du Danemark a développé une stratégie pour l'Arctique et comprendre ce que la Russie fait dans la région arctique. Dans le Grand Nord, c'est quelque chose que le secrétaire général a répété à maintes reprises. Aussi au moment où la Finlande et la Suède ont demandé d'être membres de l'OTAN, les 7 pays de l'Arctique seront des membres de l'OTAN. Ensemble avec le Groenland, comment est-ce que nous pouvons arriver à plus de dissuasion dans le Nord, dans le Grand Nord? Et oui, effectivement, le Grand Nord, pour les années à venir, il faudra plus penser à ces pays du Grand Nord. Penser à la menace hybride, mais aussi au terrorisme. Le terrorisme ne doit pas être oublié. C'est toujours un sujet de discussion autour de notre table. Moi, je suppose que dans les pays du Nord, il y aura une situation plus fragile. Nous voyons de plus en plus d'activités russes dans le Grand Nord. Et en raison du changement climatique, cette région connaîtra des changements également, des modifications. Donc nous devons nous préparer et nous devons être plus présents physiquement dans les pays du Grand Nord. Donc nous avons une grande liste de tâches et cette liste des tâches est encore devenue plus longue. Mais voilà, ça c'est ce qu'il faut faire en tant que leader politique pendant ces années. Merci d'avoir mentionné les pays du Grand Nord. La Finlande, la Suède seront bientôt des membres de l'OTAN, je l'espère. Et ce sera très important aussi en parlant de la région de l'Arctique, qui devient de plus en plus fragile. Monsieur le Président Niinistö, Oui, je suis tout à fait d'accord avec la Première ministre Mette Frederiksen. La tradition a montré que le Conseil de l'Arctique ne prend pas des positions, n'adopte pas des positions politiques. Et en même temps, nous constatons que le Grand Nord, dans le Grand Nord, il y a des tensions maintenant aussi. Et ce sont des tensions qui ne se limitent pas aux sujets qui sont traités dans le Conseil de l'Arctique. La Grande-Bretagne y participe beaucoup aussi en ce qui concerne les questions de sécurité, mais encore d'autres éléments, comme par exemple les questions environnementales. Il ne faut pas oublier que la Russie, elle, possède plus que la moitié de cette région de l'Arctique. Et si nous perdons, en quelque sorte, cette région, nous allons perdre notre influence dans le monde. Et en quelque sorte, il faut essayer de coopérer ou faire comprendre aux Russes que c'est une question cruciale. Que la glace fond dans cette région, aussi dans la toundra. Et quand on parle de questions de sécurité, nous savons tous que c'est une question qui deviendra de plus en plus importante et l'OTAN doit s'en occuper. Et c'est vraiment un moment historique qu'il y aura donc deux nouveaux membres de l'OTAN qui sont aussi membres du Conseil arctique. Bon, moi je vais vous demander maintenant, avant de demander au public de nous rejoindre, d'organiser un peu les questions et de vraiment répondre très brièvement. Monsieur le secrétaire général, je commence avec vous. Est-ce que vous pensez que l'axe d'effort en Europe c'est un peu déplacé vers l'Est? Et si oui, pourquoi? Une réponse brève. Est-ce que ça a pivoté ou est-ce que ça n'a pas pivoté?
Eh bien, ça dépend de l'interprétation de cette question. Bon, c'est bien sûr la présence de l'OTAN qui s'est glissée vers l'Est. Il y a de plus en plus de présence, des manœuvres. Au cours des dernières années, la Russie est devenue de plus en plus agressive et nous réagissons à cette évolution depuis 2014. Donc, nous avons déployé des forces dans l'Est de notre alliance et beaucoup de troupes qui proviennent de l'Ouest de l'OTAN. Ça signifie tout simplement que nous sommes solidaires dans notre alliance et qu'il y a un soutien. Nous le faisons pour assurer que la Russie ne commette pas davantage d'activités agressives à l'encontre de l'Europe. Donc c'est un message clair en disant l'Alliance est prête à défendre chaque mètre carré de son territoire. Donc avec la Finlande, l'axe se bascule vers l'Est et vers le Nord. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bien sûr, la situation actuelle est telle qu'elle est. Donc nous soutenons toutes les décisions prises concernant le flanc Est et je pense que nous devrons être présents sur ce flanc Est encore pour un bon moment. Mais ce qui est important pour l'OTAN est souple dans ses réflexions sur les différentes questions. Actuellement, nous nous concentrons sur l'Ukraine, malheureusement, et aussi malheureusement à des pays voisins de l'Ukraine. Et en même temps, il y a une menace difficile hybride, une menace cyber. Il faut aussi regarder vers le sud, parce que la situation est difficile, notamment au Sahel. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de rester souple dans nos pensées, dans notre mentalité, et que l'OTAN reste souple et prête à réagir dès qu'il y a un nouveau problème qui surgit. Madame la Présidente Sandu, quelle est votre vision des choses? Oui, tout à fait. Donc, du fait de la guerre, mon pays, nous aidons avec, en ce qui concerne les flux de réfugiés, en organisant des corridors, et nous voulons aussi renforcer la sécurité dans cette zone, mais nous avons besoin d'un soutien pour le faire. Et vous, je pense qu'il est tout à fait évident que nous nous concentrons à l'Est du fait de la crise en Ukraine, mais la souplesse, la flexibilité, c'est un aspect important. Bien sûr, il faut être disponible à agir dès qu'il y a un problème qui surgit, que ce soit dans le Nord, à l'Antarctique, la mer Noire, la mer Méditerranée, peu importe, partout. Donc il faut être prêt à réagir à tous les défis dans toutes les régions. Et nous en avons fait la preuve au cours des dernières années. Donc, il faut être prêt à réagir aux endroits où les menaces sont présentes. Vous avez une question? Veuillez vous présenter brièvement. Merci. Alexei Mouchem, je suis membre du Parlement ukrainien. Le sujet ici, c'est le renforcement de l'alliance. Et je pense que l'alliance ne sera jamais achevée sans l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Une question au secrétaire général. À Vilnius, est-ce qu'il y aura un signal fort du sommet que l'Ukraine pourrait adhérer à l'OTAN par le Member Action Plan, par le message clair en disant que l'Ukraine a sa place dans cette alliance? Une question à la présidente Sandu, c'est peut-être le moment à la Moldavie de réfléchir à nouveau sa politique de neutralité. Je sais que, ce n'est pas vous seul qui pourrez prendre cette décision, mais je voudrais bien savoir quelle est votre position. Bon, la position de l'OTAN concernant l'adhésion de l'Ukraine est restée inchangée. Donc, nous avions déjà décidé que l'Ukraine peut adhérer et nous n'avons pas changé d'avis. Mais maintenant, il est urgent d'assurer que l'Ukraine peut rester un État indépendant et libre, parce que si cela n'est pas le cas, on ne peut pas avoir de lien à l'avenir entre l'Ukraine et l'OTAN. Donc, maintenant, il est important de fournir un soutien militaire comme tous les alliés le faisons tous les jours. Donc, je salue aussi l'initiative de M. Sunak. Il s'agit de créer un cadre qui nous permet aussi, à la fin de la guerre, d'assurer une paix durable. Une fois terminée cette guerre, il faudra éviter que l'histoire ne se répète pas, que la Russie commette pas encore une invasion. Ça a commencé en 2008, la Géorgie, la Crimée, le Donbass, et l'année dernière, donc, l'invasion dans l'ensemble de l'Ukraine. Nous ne pouvons pas permettre à la Russie de saper peu à peu la sécurité en Europe. Nous devons donc mettre un terme à cette agression à l'encontre des pays européens. Voilà pourquoi, après la fin de la guerre, nous devons développer un cadre afin d'assurer que cette agression ne puisse pas continuer. Madame la Présidente Sandu, eh bien, quand on regarde les activités de la Russie en Ukraine, il est tout à fait clair que la neutralité ne peut pas nous protéger. La neutralité peut protéger seulement si les autres États respectent ce statut. Mais vous le savez très bien, actuellement, il n'y a pas une opinion politique qui pourrait nous permettre de changer ce statut. Nous en sommes conscients, on peut en discuter. On peut aussi discuter des raison qu'il explique, c'est dû en grande partie d'ailleurs à la propagande menée par la Russie. La Russie dit par exemple que la neutralité signifierait que le pays ne devrait pas renforcer son secteur de défense. Ça n'a pas de sens, mais beaucoup de citoyens moldaves ont peur d'une agression et voilà pourquoi ils acceptent de telles allégations. Donc nous devons coopérer pour contrer cette propagande. Mais dans la situation actuelle, cette question ne se pose pas si on change ce statut de neutralité. Mais la Moldavie devait être épaulés par les autres afin de renforcer cette défense et faire partie de l'architecture de sécurité européenne. Un microphone au fond de la salle pour une dernière question, parce que moi aussi, je voudrais bien poser une dernière question aux panélistes. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je pense que vous avez fait une bonne synthèse de la situation. Vous avez dit que Poutine aime bien utiliser la violence pour s'imposer, et si on n'y réagit pas, il va profiter de notre faiblesse. La République de Moldavie est présente sur la scène, et quand on l'écoute, on a l'impression que la même chose pourrait se répéter encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle internationale pour soutenir la République de Moldavie? Déjà l'année dernière, j'ai dit que les alliés de l'OTAN et les forces on devrait envoyer des forces en Ukraine pour éviter une agression russe. Mais la rhétorique russe nous a fait trop peur. La présidente du Royaume du Danemark s'est exprimée, on l'a entendu, on connaît les difficultés de la Moldavie. Oui, l'Ukraine est un sujet important, mais c'est peut-être à la Moldavie, c'est le prochain pays. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'alliance avec nos forces et nos forces de réaction rapide avant qu'il ne soit pas trop tard? Donc d'abord vous, Madame Frederiksen, et après Monsieur Stoltenberg. Bon, Jens peut parler au nom de l'OTAN. Moi, je voudrais bien dire ce qu'on peut faire au niveau politique. Vous avez mentionné un aspect très important. Vous avez dit qu'il y a une grande minorité dans votre population qui soutient la position russe du fait des intox, de la désinformation et d'une peur d'une guerre. En tant que chef d'État et de gouvernement, nous pouvons soutenir la Moldavie seulement si la population nous soutient dans cette approche, parce que nous sommes des démocraties. Et si le Danemark transmet l'ensemble de l'artillerie à l'Ukraine, comme on le fait, il faut avoir le soutien de la population, c'est-à-dire il faut lutter contre l'inflation, il faut aussi réagir dans le secteur énergétique. Vous ne produisez pas vous-même de l'énergie et vous avez dit que les prix énergétiques ont été multipliés par 7 dans un pays pauvre. Si vous êtes une famille pauvre en Moldavie et vous devez dépenser 7 fois autant pour l'énergie, vous pouvez avoir l'impression que ce serait mieux d'être protégé par la Russie. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est d'aider nos pays partenaires pour promouvoir le développement, et c'est vrai aussi pour l'hémisphère sud. La pénurie alimentaire et énergétique nous rend la vie encore plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire afin de protéger la Moldavie? Bon, il faut aborder ce problème, il faut promouvoir le développement en Moldavie pour assurer que la population soutient la position européenne en ce qui concerne l'OTAN, mais aussi en ce qui concerne l'Union européenne. C'est autant important que les mesures dures militaires dont parlera certainement Jens. Donc tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Mette. Je me rallie tout à fait à sa position. Il faut soutenir la Moldavie de différentes sortes et le plus vite possible. La Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie sont des pays vulnérables en ce qui concerne l'agression Russie. La Moldavie souhaite... Il y a des pays voisins qui souhaitent adhérer à l'OTAN. La Moldavie ne s'est pas encore prononcée, ce qu'on comprend tout à fait. Mais un autre enseignement à tirer de la guerre en Ukraine, c'est que nous devons soutenir les pays qui sont vulnérables à une agression russe et le plus rapidement possible. L'Ukraine a pu repousser l'agression russe seulement parce que les forces armées étaient très courageuses et le sont toujours, comme aussi le peuple et les dirigeants ukrainiens. Mais il est également important que l'OTAN forme les forces armées ukrainiennes depuis 2014 et organise des manœuvres ensemble avec l'Ukraine. Depuis 2014, les États-Unis et d'autres pays ont fourni du matériel militaire aux forces armées ukrainiennes. Donc les forces ont été mieux formées et équipées depuis 2014 et cela explique en partie leur grande capacité de pouvoir résister à l'agression russe. Ils n'auraient pas pu le faire en 2014. Donc nous renforçons le partenariat et nous avons également décidé de renforcer notre partenariat. Et je constate tout à fait qu'il y a aussi un besoin urgent de soutenir davantage ces partenaires qui sont vulnérables face à une agression russe. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Cette discussion était très importante. Il faudra assurer à ce que la Finlande et la Suède puissent adhérer pleinement à l'OTAN. Il faut soutenir la Moldavie. Donc voilà des missions importantes pour l'OTAN, mais les époques historiques demandent aussi des décisions historiques. Encore une dernière question. À vous, Monsieur le Secrétaire général. Les présidents américains connaissent cette tradition d'écrire des messages sages à leur successeur. Qu'est-ce que vous transmettrez à votre successeur? Donc, il faut préserver le lien entre l'Europe et l'Amérique du Nord, donc le lien transatlantique. Aucun de